Méli Méloman.
Là, il faut me donner le maximum.
L'émission de musique classique de Divergence FM.
Vous commencez beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Voilà. Pas encore. Maintenant.
Et maintenant, nous recevons Vittorio Forte. Voilà, une nouvelle formule pour Méli Méloman aujourd'hui avec un invité. Vittorio Forte, pianiste, qui sait, vous avez pu écouter à Montpellier il n'y a pas si longtemps, c'était au mois de novembre, hein, voilà, qui avait joué un programme italien tout à fait intéressant à la Comédie, salle Molière de la Comédie. Alors, eh bien, on peut peut-être vous présenter, parce qu'on a plein de choses à se raconter, plein de choses intéressantes que vous faites. Alors, Vittorio Forte, comment se passe cette carrière de pianiste pour vous? Comment elle est venue et comment elle se passe?
Comment elle est venue, c'est vraiment, je dirais pas par hasard, mais ça s'est construit au fur et à mesure, avec beaucoup d'hésitations, beaucoup de ralentissements, beaucoup de réflexions, des moments importants de doute. Et puis finalement, la ligne droite a commencé lorsque j'avais 17-18 ans. Lorsque mon professeur de l'époque m'avait convaincu d'essayer de passer quelques concours de piano en Italie, dans le sud de l'Italie, qui ne se sont pas trop mal passés. Donc cela m'a donné probablement un peu de motivation pour pouvoir avoir le courage qui est plus que nécessaire pour commencer une telle carrière, même, ne serait-ce que même pour la discipline du travail. Car on est amené quand même à être souvent très seul lorsqu'on est devant un piano et les doutes sont très très nombreux, même si on est parfois guidé et soutenu par un bon professeur. Le temps parfois semble très très long, l'impatience s'installe. C'est une carrière extrêmement difficile et je crois même qu'avec les années, elle est devenue encore plus.
D'accord. Alors pour vous, ça se passe plutôt bien pour l'instant.
Je ne peux pas me plaindre. Disons, j'ai eu la chance déjà d'enregistrer plusieurs disques, ce qui est quand même quelque chose de très important pour un artiste, pour s'exprimer, pour essayer de trouver en soi les idées, qu'elles soient musicales, même au niveau du répertoire, des choix, se montrer un peu curieux envers tout ce qui a été écrit pour notre instrument, et même pour d'autres instruments, et éventuellement retranscrit pour le nôtre, ce que j'ai fait avec un autre disque. Mais c'est une perpétuelle recherche, en fait. Donc, si on arrive à faire cela, on a une vraie motivation et je pense que le public s'y intéresse. Donc, on peut instaurer un véritable dialogue avec eux, que ce soit le public qui nous écoute ou le public carrément qui vient au concert. Donc, c'est vrai qu'il y a des périodes où je donne beaucoup de concerts, d'autres qui sont des périodes beaucoup plus calmes et des périodes où je me prépare vraiment exclusivement pour les enregistrements. Et en parallèle, j'anime quelques masterclass aussi durant l'année et je suis des élèves avancés pour qu'ils présentent des examens, des concours ou lorsqu'ils ont besoin de conseils particuliers par rapport à l'interprétation ou le travail, le choix des répertoires, etc.
Donc vous n'êtes pas un musicien qui, comme un chef d'orchestre célèbre qui était Sergio Celibidache, qui disent non, les enregistrements surtout pas, la musique ça se fait en direct, ça ne se fait pas en studio.
C'est un peu le discours inverse de Glenn Gould.
Oui.
Vous savez, on peut dire tellement de choses, les citations.
On peut trouver des citations dans tous les sens.
Finalement, ce qui est important, c'est les deux. Et puis surtout, ce qui est important, c'est ce que le musicien ressent. S'il a besoin de s'exprimer par le disque, par l'enregistrement, en live, en enregistrement live, ben, tout est possible dans la mesure où le musicien est sincère envers lui-même, sincère envers la musique, et il n'y a pas une sorte de façade faite exclusivement pour obtenir un avis consensuel de la part, que ce soit des critiques ou de la part du public ou de la part des grands décideurs de notre système musical. Voilà, si c'est fait avec sincérité et surtout avec une grande humilité, parce que c'est quand même une des qualités essentielles du grand musicien, à mon avis, eh bien, je pense que n'importe quel choix peut être tout à fait justifiable. Donc on peut tout à fait partir du principe qu'on joue seulement en concert, et on peut tout à fait se dire aussi que le moment où on va enregistrer, c'est un moment pour nous de nous recentrer exclusivement sur la partition, sur l'œuvre, sur l'intérêt qu'on porte au compositeur, puis après présenter cela comme on fait un vernissage avec des œuvres qu'on vient de créer lorsqu'on est peintre ou sculpteur. C'est un peu le même sens.
D'accord. Alors, discographie, ils vont coller un petit peu. Il y avait
C'est
attaché à faire découvrir des compositeurs pas toujours connus ou connus pour d'autres choses. Je pense à Clementi, notamment.
Justement, vous voyez, Clementi, c'est vrai que c'est un compositeur... le titre du disque, enfin, à l'intérieur de la pochette, dans le disque, il y avait Clementi l'inconnu. Il est vrai que Clementi, il n'est pas vraiment inconnu, il est peut-être méconnu, mais en Italie, on connaît très bien Clementi et toute sa musique, quasiment, toutes ses sonates, toute la musique pour piano et même la musique symphonique. C'est un compositeur qui, malgré tout, dont le nom est connu, mais dont on connaît peu l'œuvre. Je me suis intéressé à différents compositeurs, parce que mon deuxième disque, c'était quand même Schumann, avec des œuvres phares du compositeur, donc c'est loin d'être des œuvres inconnues.
C'est pas un inconnu, et puis il y en a un sur les valses de Chopin.
Les valses de Chopin,
l'avant-dernier. C'est pas vraiment un inconnu.
Absolument pas. Donc ce qui est intéressant, enfin en tout cas, ce que moi je recherche, c'est de faire un peu de tout, c'est-à-dire de me motiver aussi bien dans le répertoire qui a déjà été très enregistré et de trouver aussi de temps en temps un vrai sens à la recherche musicale. C'est ce qui s'est passé un peu avec ce tout dernier disque qui va paraître bientôt consacré à Philippe Emmanuel Bach.
Alors ben justement, on va tout de suite en écouter un extrait. Alors voilà, pour illustrer un petit peu votre propos sur la discographie, Carl Philipp Emanuel Bach, alors justement un compositeur connu et méconnu à la fois, connu mais pas forcément beaucoup écouté et très connu du grand public.
Ah, voilà, là il faut être très sincère. Évidemment, le grand public ne connaît pas les œuvres de Carl Philipp Emanuel Bach. Lorsque vous parlez avec même des mélomanes avertis, la réflexion qui revient souvent, c'est en lien avec le père.
Oui, c'est un des fils, un des nombreux fils.
Voilà, un des nombreux fils, dont trois ont été des génies. Carl Philipp Emanuel Bach fait partie des trois génies. Mais c'est une musique qui n'a strictement rien à voir, en tout cas qui a l'héritage de ce que son père a écrit, mais surtout s'ouvre sur de nouveaux horizons musicaux. On voit bien, on entend bien, surtout dans sa musique, qu'on prépare déjà ce qui viendra plus tard, même un peu. Parfois, certains récitatifs de Chopin ou les récitatifs d'opéra de Mozart, par exemple, c'est quelqu'un qui a été extrêmement important pour le développement de la musique pour clavier, au même titre que Clementi, justement.
Oui, il fait partie de ces compositeurs, hein, ce qu'on appelait la période du Sturm und Drang aussi,
voilà, tout
qui
à
est
fait.
Qui a, entre le baroque et le classique et qui annonce parfois les premiers romantiques.
C'est ça, absolument. Même, je pense que, d'une certaine façon, ils étaient les précurseurs du romantisme.
Donc, alors là, c'était un rondo en mi mineur qu'on entendait. Alors, le titre allemand, Abschied
oui,
von meinem Silbermannischen Klavier, c'est ce qui veut dire au juste.
C'est adieu à mon clavicorde Silbermann. Donc c'est une très, très jolie petite histoire. Je trouve que j'en discutais il n'y a pas longtemps avec des étudiants, justement, parce que j'étais en train de donner des masterclass cette semaine avec des concerts d'étudiants. Et lorsqu'on se sépare, par exemple, de son instrument, lorsqu'on est enfant, on a travaillé pendant des années sur un instrument, peut-être qu'il est devenu une catastrophe, une vraie casserole. Mais lorsque le jour où il faut s'en séparer arrive, souvent on est très touché, ému de le faire. Et cette petite pièce que Carl-Philippe Emmanuel Bach a quasiment improvisée lorsqu'il a fallu se séparer de ce clavicorde, c'est une pièce extrêmement touchante. D'ailleurs, on l'entend hein, dès les premières notes. C'est quasiment une sorte de confidence, une dernière confidence
un peu nostalgique
propre piano avant de le donner à quelqu'un d'autre.
Et puis, ce que vous racontez, en plus, nous remet bien dans l'époque. On passe du clavicorde au pianoforte.
Voilà, absolument. Oui.
On avait le clavecin avant, le clavicorde qui a fait une petite transition, et puis on arrivera au pianoforte.
Et Carl-Philippe Emmanuel Bach a beaucoup travaillé sur le clavicorde et le pianoforte.
Alors ça, c'est un disque, c'est le dernier disque que vous avez enregistré, qui n'est pas encore, comme on dit, alors j'allais dire dans les bacs des disquaires, mais il n'y a quasiment plus de disquaires.
Malheureusement donc, pas.
Mais qui n'est pas encore sur le marché, c'est beaucoup moins poétique, mais bon.
Oui, bon, il sera physiquement distribué, comme on dit, à partir du 15 mars en France et puis aux États-Unis et fin mars en Allemagne et dans d'autres pays.
Voilà.
Le concert de lancement de ce disque est prévu à Paris le 8 avril au Cercle France-Amérique à 20h.
D'accord. Donc un disque qui s'intitule Abschied, ce qui signifie adieu, voilà, en allemand. Et c'est un éditeur tout à fait pas très connu, mais qui a une démarche tout à fait intéressante, très collective, Odradek.
Absolument, magnifique maison de disques qui en plus permet de faire des enregistrements dans des conditions absolument formidables. On est très soutenu et il y a un matériel vraiment extraordinaire pour enregistrer. Le piano, bien sûr, mais tout le reste aussi.
Alors, pour les auditeurs qui n'ont pas eu le temps de noter, nous mettrons les références sur le site, à la page consacrée à Méli Mélomane. Alors, vous ne faites pas que cela. Vous avez parlé de masterclass. Donc, quand vous êtes arrivé en France, peu de temps après, vous avez créé le CAPA à Lunel, c'est ça? C'est pas un certificat d'aptitude, c'est le centre d'activité pianistique et artistique à Lunel. Vous avez différentes activités, dont des masterclass. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce CAPA?
Le CAPA, le centre d'activité effectivement pianistique et artistique, qui est aujourd'hui à Montpellier, en fait. Il n'est plus à Lunel.
Ah, c'est plus à Lunel, d'accord.
C'est-à-dire qu'il a pour vocation d'avoir plusieurs activités dans toute la région. Donc aussi bien du côté de Lunel, bien sûr, mais aussi à Montpellier, avec une saison de concerts et avec des activités comme les masterclass qui ont lieu à Montpellier, à Lunel-Viel et dans d'autres endroits. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux lieux. Et on a envie d'ailleurs de faire vivre des lieux où la musique d'habitude n'est pas présente, de les faire vivre par le biais des masterclass ou par le biais de concerts de jeunes, de nouveaux talents. À la base, c'était vraiment la volonté de créer une association dans laquelle puissent se rencontrer les musiciens et les artistes en tout genre. C'est un projet très compliqué, très complexe. Cela demandera certainement quelques années pour être véritablement réalisé tel que moi je l'ai dans la tête, en tout cas. Toutes nos forces sont mises vers cet objectif, et nous faudra là aussi le soutien des institutions, bien sûr, des organismes qui s'intéressent à la musique et à l'art en général, pour pouvoir essayer de créer une vraie plateforme artistique ici à Montpellier, qu'elle soit musicale ou autre.
Alors, et vous y tenez notamment des masterclass. Alors,
voilà,
les musiciens savent ce que c'est, le grand public a peut-être vaguement entendu ce terme. Qu'est-ce que c'est qu'une masterclass?
Oui, alors la traduction classe de maître est effectivement un peu prétentieuse, ce n'est pas du tout le but d'ailleurs, mais ce qui est certain, c'est que moi j'essaie de guider certains élèves, étudiants, qu'ils soient adultes, amateurs, avancés, grands amateurs ou alors professionnels ou futurs professionnels. J'essaie de leur donner des conseils de par ma petite expérience de concertiste et puis de par ma culture musicale et justement ma curiosité. J'essaie de partager avec eux pendant ces masterclass ce que je sais, ce que je pense de la musique. Maintenant, il faut savoir qu'en ce qui concerne en tout cas l'interprétation musicale qui est un des sujets dont, qu'on aborde lors des masterclass, lors de ces cours individuels, mais qui sont ouverts au public, en fait. L'interprétation n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Il n'y a pas de vérité concernant l'interprétation. Il y a peut-être une justesse. Il y a quelques certitudes au point de vue stylistique, que ce soit en jouant Mozart, Chopin ou Debussy. Mais globalement, arriver à vraiment mettre en avant et mettre sous la lumière la personnalité de l'étudiant, c'est ce que je cherche. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident, parce que malgré tout, il y a quand même l'aspect technique qui vient parfois freiner cela. Mais c'est ce que j'aime, c'est arriver à faire ressortir la personnalité de l'étudiant, de celui qui est devant le piano, à travers la partition. Donc, vous avez ce qu'elle est là.
Du coup, j'ai, en prévision de cet entretien, j'avais trouvé un volume de réflexions et souvenirs publiés tout récemment de Rachmaninov, grand pianiste s'il en fut, hein, qui était un grand compositeur, mais aussi un pianiste virtuose, et qui parle de l'interprétation. Alors, je vous soumets son propos, qui recoupe ce que vous venez de dire. Lorsqu'un élève talentueux a gagné en maturité, il approfondit son interprétation. Comment jouer une cantilène de Beethoven ou de Chopin ? Il lui faut ressentir cela en lui-même. Le talent, c'est un sentiment dont chaque pianiste fait l'expérience dans l'intimité de sa conscience lorsque l'interprétation vient du cœur. Il n'existe pas de principe ou de critères établis qui définissent la qualité d'une interprétation.
Magnifique, c'est parfait, c'est absolument ça. Il n'y a pas de règle en fait. Tout est filtré par le caractère de la personne. Par contre, en amont, il y a un respect de la partition, un respect du travail. Rachmaninov était extrêmement respectueux du travail de l'instrument. Il avait une forte personnalité. Et aujourd'hui, on a l'habitude de jouer sa musique aussi d'une façon certainement beaucoup plus cinématographique qu'est-ce que lui-même aurait voulu, qui était quand même quelqu'un de très classique dans sa façon de jouer, qui n'était pas du tout dans l'esbrouf, jamais. Lorsqu'on entend ses propres enregistrements, on a cette chance-là de pouvoir entendre les enregistrements
de
Rachmaninov.
Oui, on a beaucoup de 78 tours qui ont été enregistrés avec des gens comme Sigeti et d'autres.
Voilà, il y a ses œuvres à lui, et puis lui, interprétons les œuvres des grands compositeurs. Et c'est d'une richesse extraordinaire, vraiment extraordinaire. Donc oui, l'interprétation, c'est... L'interprétation est toujours en mouvement. L'interprétation, l'art de l'interprétation, c'est une perpétuelle recherche et une perpétuelle remise en question. Pour nous, les professionnels, bien sûr, parce qu'on fait de cela notre métier, notre passion, notre vocation, voire, comme disait Cortot, notre mission, carrément. C'est une mission de transmission. Si la musique de Chopin est encore entendue aujourd'hui, ce n'est pas que par le disque, c'est aussi parce que les interprètes existent, bien sûr. Et donc, tant qu'il y aura des interprètes, on pourra encore connaître la musique du XVIIe siècle, vous voyez, c'est ce que je veux dire.
Voilà, en même temps, ce que vous dites me recoupe une de mes convictions, c'est que parler de version de référence est un peu une ânerie. Je suis un peu sévère.
Non, mais je suis assez d'accord avec vous. Il est vrai que souvent, lorsqu'on lit des critiques, on a souvent, à la fin de la critique, d'un disque à peine paru, on a une sorte de récapitulatif de ce que sont les versions de référence de l'œuvre enregistrée. Et 99% des cas, vous avez des œuvres enregistrées par des interprètes qui ne sont plus là, qui sont certainement des versions de référence pour nous les musiciens sur lesquels on a travaillé, avec lesquels même on a découvert ce répertoire. Lorsque moi je pense aux valses de Chopin, par exemple, je pense aussi à la version, presque automatiquement à la version de Lipatie, même si elle n'est plus aujourd'hui vraiment d'actualité, mais elle a été une version de référence, comme vous dites, à un certain moment. Mais ça n'a plus aucun sens. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens de dire cela, parce que c'est vrai que l'enregistrement, il n'est pas là seulement pour donner une sorte de témoignage définitif de comment on doit jouer telle ou telle œuvre.
Oui, et puis on a aussi, quand on regarde un peu les revues musicales et qu'on sort un petit peu de France, tel enregistrement primé en France est totalement ignoré en Angleterre,
absolument,
et vice-versa.
Là,
donc
après,
la notion de référence, il y a des goûts musicaux nationaux qui sont complètement différents. Alors, pardon, ces masterclass, c'est aussi amener les élèves qui ne sont pas des débutants en général, qui ont déjà une petite carrière qui a commencé.
Peut-être
souvent.
Pas carrière, mais sont déjà en phase de préparer leur ancienne, ce qu'on appelait avant la médaille du conservatoire, le DEM, ça s'appelle aujourd'hui, ou qui ont déjà fini, qui sont plutôt en perfectionnement. J'ai plusieurs professeurs de piano, enfin des personnes qui donnent déjà des cours de piano depuis plusieurs années, qui viennent me voir pour avoir des conseils sur leur propre façon d'aborder certaines œuvres, et puis conseils qui peuvent leur être utiles aussi lorsqu'ils s'impliquent dans la transmission de ces choses-là envers leurs propres élèves. L'année dernière, donc l'année 2017-2018, on avait commencé par des masterclass un peu test. On a essayé, cela a été plutôt concluant, et donc cette année, on a commencé à en faire plusieurs, donc tous les mois, jusqu'au mois d'avril, peut-être au mois de mai. Et j'ai un projet qui me tient à cœur, c'est de pouvoir, à partir de l'année prochaine, inviter de grands musiciens, de grands pianistes, de grands maîtres, vraiment, enfin, ce que moi j'entends pour grands maîtres, donner des masterclass à nos étudiants du CAPA, en fait.
Alors là, il y a eu cette année un programme de concerts lié à ces masterclass que vous aviez baptisé Piano Intime. Donc au cours de l'année, notre émission n'existait pas encore, donc vous avez eu 6 concerts au total.
Oui,
vous avez
ça.
Ouvert le cycle, et puis il y a eu Véronique Bonnecaze en novembre.
Alors Véronique, elle n'a pas pu venir malheureusement,
elle a été
remplacée.
Elle est sur le programme.
Et Béatrice aussi, Béatrice Berruth au mois de janvier. Mais on a eu François Dumont, Julien Astinbach absolument, et puis Jean-Baptiste Von Lupt, magnifique pianiste aussi.
Voilà. Et le 17 mars, Tristan Pfaff clôturer le cycle de cette année. Peut-être on va faire entendre tout de suite un extrait d'une des œuvres qu'il va jouer ce soir-là. Une transcription d'une œuvre de Chopin par un certain Franz Liszt. Voilà, alors ça c'est une transcription par Franz Liszt de chants polonais, de mélodies que Chopin a composées. Alors, Liszt en a retenu 6, il a fait ce petit cycle de transcription, mais il y en a un petit peu plus que ça. Là c'était joué par Nikita Megalov. Et donc c'est des œuvres que Tristan Pfaff va mettre à son programme. Alors c'est un programme qui est construit autour de justement de transcription, de paraphrase. Alors, pour le grand public, c'est pas forcément très clair. Tout ça, on parle des fois de réduction pour piano, de transcription pour piano. On parle de paraphrase, de variation. Alors, brièvement, oui. Est-ce que vous pouvez nous éclairer réduction, transcription déjà?
Alors, vous éclairez, je vais essayer. Ceci dit, même nous, on s'y perd un peu, hein, les musiciens. Parce que lorsque nous étions au 19e siècle, il y avait quelques pianistes, compositeurs qui adoraient transcrire pour une question de transmission très souvent, d'autres peut-être pour pouvoir avoir un peu plus de répertoire en public, pouvoir provoquer aussi la réaction de la foule lors des concerts, en transcrivant de façon très virtuose les œuvres d'autres compositeurs, et surtout d'opéra d'ailleurs, parce qu'effectivement les mélodies d'opéra fonctionnaient très très bien, hein, au niveau du public. Et donc certains compositeurs, dont Liszt bien sûr, mais aussi comme Thalberg et d'autres, transcrivaient ces opéras-là. Alors la différence, il n'y a pas une véritable différence, c'est juste une façon dont on traite, dont on utilise les différents motifs qu'il y a à l'intérieur d'une œuvre, originairement composée pour autre chose que le piano. Ou alors pour voix et piano, ou pour trio, quatuor avec piano, etc. Selon le génie du compositeur, et chez Liszt c'est le cas, on pouvait arriver à carrément transformer l'œuvre. D'où le fait d'avoir plutôt des paraphrases où on retrouve le motif, on retrouve le thème, mais où même les harmonies sont parfois différentes, tout en gardant donc la mélodie de l'œuvre originale, mais avec la couleur de la façon compositionnelle, donc la façon de composer du compositeur, de l'artiste, du créateur en question. Plus tard, par exemple, avec des compositeurs comme Godowski, pianiste-compositeur comme Godowski, on donnera même des titres...
Qui sera au programme de Tristan Pfaff.
Non, ce sera Moskowski.
Moskowski, pardon, effectivement.
Moskowski, voilà, c'était aussi un transcripteur. Godowski, qui était beaucoup plus tardif, hein, et exceptionnel pianiste, il a même composé des transcriptions qu'il appelait des métamorphoses symphoniques, par exemple. Donc voilà, on a commencé d'abord avec des arrangements, c'est-à-dire qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, on faisait des arrangements d'œuvres orchestrales, souvent pour piano à quatre mains, pour permettre aux gens de se faire plaisir en jouant les symphonies de Haydn, par exemple,
oui,
ou de Mozart à quatre mains.
C'était aussi une façon de diffuser la musique. Il n'y avait pas de radio, autre, il n'y avait pas de disque.
Donc les éditeurs étaient très preneurs de ce type de choses.
Par contre, il y avait un piano dans toute demeure bourgeoise qui se respectait.
Absolument.
Il y avait un piano et la fille ou les enfants avaient appris à jouer du piano.
Voilà.
Donc,
et puis, par la suite, lorsque Liszt, qui a été un des certainement plus grands transcripteurs de l'époque romantique, lorsqu'il a découvert la musique de Schubert, il a voulu vraiment les transcrire, mais vraiment réalisant des chefs-d'œuvre. Et ce fut le premier, certainement. Et aujourd'hui, on joue encore beaucoup ces transcriptions. Paraphrase, fantaisie d'après tel opéra, ou alors parfois arrangement. Mais globalement, Liszt a vraiment utilisé les thèmes, mais en tant que créateur. Et pas seulement pour arranger une œuvre ou simplement pour la réviser et permettre à d'autres pianistes de les jouer. C'était vraiment une véritable démarche artistique de sa part.
Alors, il va nous falloir conclure cette émission. Alors, on aurait plein de choses à se dire encore,
oui.
Mais il faut bien conclure. Alors, pour entendre ce travail de Liszt, notamment, mais aussi du grand français Camille Saint-Saëns, qui aussi, a aussi travaillé
en tant que
sur ça,
oui,
en tant que transcripteur, là, sur le fameux Thaïs de Massenet.
Voilà, la mort de Thaïs.
Donc, vous entendrez comment ça sonne. Hein, et bien venez écouter Tristan Pfaff, ça se passera le 17 mars à 18h au Gazette Café.
Voilà, Tristan qui revient donc pour la deuxième année consécutive pour notre saison piano intime. C'est un ami, c'est un magnifique pianiste et il vient de sortir un disque consacré aux études de Carole Beffa.
Voilà, et bien vous me faites la transition, j'ai même pas besoin de l'annoncer, un extrait de ce nouveau disque consacré à Carole Beffa, la cinquième étude. Voilà, Tristan Pfaff dans son dernier enregistrement des études pour piano de Carole Beffa, un compositeur contemporain, Hein, et Tristan Favre, donc, que vous pourrez entendre le 17 mars à 18h au Gazette Café. Alors, il est prudent de réserver, donc vous pouvez faire ça sur le site du CAPA. Donc, c'est centre pianistique tout attaché en minuscule.com. Hein, c'est pas compliqué. Et puis, de toute façon, si vous n'avez pas le temps de noter, vous trouverez les références sur la page consacrée à Méli Méloman sur le site de Divergence FM. Voilà pour cette émission. Merci Vittorio Forte.
Merci à vous.
Et on se verra sans doute le 17 mars à ce concert.
Avec plaisir.
Merci à vous. Merci à Bruno pour la technique. Et plein de découvertes musicales à nos auditeurs. Et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.